en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le 7 et le 8 décembre 2007 s'est tenu le colloque international Jean Mabillon entre érudition et histoire culturelle. Ce colloque international de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et du laboratoire d'études sur les monothéismes, également du CNRS et de l'École pratique des hautes études et de la société Mabillon, a pour objet l'étude de la personnalité de Mabillon, son statut dans l'historiographie française ainsi que son œuvre érudite. La première demi-journée fut consacrée à Mabillon et son image et la seconde partie du colloque était consacrée à Mabillon et les enjeux de l'érudition. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de trois de ces interventions. Pour commencer, une première intervention, celle de Odon Hurel, du CNRS et du Laboratoire d'études des monothéismes, intitulée « Mabillon, l'hémoriste et l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres ». Retrouvons-le en grande salle des séances.
Les 50 volumes de l'histoire de l'Académie royale des inscriptions et des belles-lettres offrent plusieurs sources complémentaires ainsi que la représentation officielle du monde académique sous l'Ancien Régime. On le sait, les mauristes seront largement, pour des raisons structurelles, peu représentés à l'Académie. Mabillon et Montfaucon au début du XVIIIe siècle, Poirier, Clément, puis Brial à la fin de ce même XVIIIe siècle. Cependant, les savants bénédictins, comme les appellent souvent les académiciens eux-mêmes, ne sont pas absents des débats et des dissertations. Pour les académiciens, la congrégation de Saint-Maur se résume à un corps de bénédictins savants. D'abord essentiellement parisiens, avec les deux abbayes de Saint-Germain-des-Prés et des Blancs-Manteaux, puis à partir des années 1750, réseau étendu dans l'esprit des académiciens au réseau national des mauristes, engagé parallèlement à des travaux d'histoire provinciale et littéraire. Cette évolution entre dans le contexte du développement des académies provinciales qui peu à peu recrutent un certain nombre, mais toujours limité, de bénédictins dans leur rang. L'article 10 du règlement de 1701 est clair et bien connu. Nul ne pourra être proposé à l'Académie s'il est régulier, attaché à quelque ordre de religion, si ce n'est pour remplir quelques places d'académicien honoraire. Cette disposition permettait cependant donc à Jean Mabillon, en 1701, puis à Montfaucon, d'entrer à l'Académie. Mabillon y lut en 1702 un discours sur les anciennes sépultures de nos rois, travail assez secondaire, qui d'ailleurs ne sera presque jamais évoqué par la suite dans les travaux pourtant nombreux de l'Académie au XVIIIe siècle sur les premiers siècles de la monarchie française. Pour Montfaucon, comme précédemment pour le vieillissant Mabillon, l'Académie n'est pas le lieu pour exposer des travaux de première importance. Les séances lui permettent parfois de revenir sur certains dossiers ou sur certains débats entre membres de la République des Lettres, comme en 1734 au sujet d'un passage d'Hérodote autour duquel une dispute littéraire s'était élevée entre lui et Gronovius, auteur d'une édition d'Hérodote en 1715. C'est aussi l'occasion, en particulier en matière d'archéologie et en tant qu'académicien, de promouvoir la conservation des monuments antiques. Il serait à souhaiter, dit-il, que nos magistrats veillassent à leur conservation, donc des monuments antiques, et donnassent ordre à ceux qui, en creusant la terre, découvrent des statues, des bas-reliefs et surtout des inscriptions, de les en avertir. On donne de pareils ordres à Rome et l'on punit parfois sévèrement ceux qui manquent de les exécuter. Une de ses dernières interventions en 1737, consacrée aux coutumes et usages dans l'Empire d'Orient de la fin du IVe au début du Ve siècle, n'est qu'une suite de citations des homélies de Jean Chrysostome, sans aucune analyse, pourtant évoquées dans le cadre d'un projet en cours sur l'histoire de l'Antiquité tardive. Malgré tout, l'œuvre de Montfaucon semble déjà beaucoup plus en phase avec les travaux de l'Académie royale. Les relations entre individualités mauristes et académiciens dépassent la seule vie académique. Plusieurs académiciens, vous le savez, sont par ailleurs ou ont été abbés commendataires de certaines abbayes mauristes, comme Henri-Charles Le Cambou de Coislin, abbé de Saint-Georges de Beaucherville, ou Pomponne, abbé de Saint-Mexant puis de Saint-Médard de Soissons. Les éloges mentionnent parfois un véritable attachement de ces personnages envers leurs abbayes. C'est le cas, par exemple, de l'abbé Anselme, qui se retire dans son abbaye de Saint-Sever-Cap-de-Gascogne. D'autres fréquentent assidûment, mais pas seulement pour des raisons intellectuelles, les deux abbayes parisiennes, comme Eusèbe Renaudot, qui a successivement un appartement à Saint-Denis puis à Saint-Germain-des-Prés. Enfin, deux ou trois, à l'image de Charles Rollin et de Pierre-Nicolas Bonamy, ont connu dès leur enfance ou leur jeunesse la fréquentation de bénédictins de Saint-Maur, des Blancs-Manteaux en particulier, une abbaye qui, à la lecture de la production académique, retrouve la place qu'elle tint au XVIIIe siècle dans la sphère érudite parisienne, mais que finalement l'histoire a un peu oubliée au profit de Saint-Germain-des-Prés. D'autres relations étaient liées à d'autres lieux de sociabilité savante parisiens, évidemment, comme les fameuses réunions organisées à Saint-Germain-des-Prés par Montfaucon, mais aussi la petite académie du cardinal de Rohan, par ailleurs académicien, où se retrouvaient dans les années 1720-1730 certains de ses confrères et Montfaucon lui-même. Ce n'est pas tout. Certains bénédictins parisiens ou provinciaux furent attirés par le mouvement académique. C'est très net dans les abbayes provinciales, situées en ville, comme Caen, Dijon, Toulouse ou Bordeaux. L'Académie royale des inscriptions, en créant en 1732-1733 un prix dont le sujet devait traiter une question d'histoire ou de littérature ancienne et moderne, avec au moins une fois tous les trois ans un sujet sur l'histoire de France, ne pouvait qu'intéresser les bénédictins parisiens et surtout provinciaux, souvent engagés dans de l'érudition régionale. Dès 1733-1734, un mauriste et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'initiateur de l'histoire littéraire de la France, dont Antoine Rivet y participe. Il n'obtient que le 7e rang à propos de l'état des sciences dans la France de Charlemagne, le lauréat étant le bientôt célèbre Chanoine Leboeuf, futur académicien. Si Don Rivet ne sera jamais intégré dans une académie, fût-ce provinciale, peut-être en raison de son engagement très actif dans les controverses jansénistes, ce n'est pas le cas de Don Joseph Pont, membre de l'Académie des sciences de Toulouse, professeur de grec et d'hébreu dans cette même académie, entre 1752 et 1763. En 1753, il participe au prix dont le sujet était l'origine de l'ordre des chevaliers romains et il est classé quatrième. Quelques années plus tard, en 1764, Don Liéble, bénédictin de Saint-Germain-des-Prés, se voit décerner le prix pour avoir traité des limites de l'Empire de Charlemagne au temps de sa mort. Par la suite, Don Liéble prendra une part très active aux deux crises qui secouent la congrégation, d'abord dans les années 1765, avec la sortie momentanée de la congrégation de Saint-Maur de Don Poirier, le futur académicien, puis vers 1783-1787, alors qu'il est un des bibliothécaires de Saint-Germain. Il sera le seul lauréat mauriste de l'Académie royale. Cependant, une dizaine d'années plus tard, en 1773, c'est un autre mauriste non académicien, mais très actif à Reims, en tant qu'un des rédacteurs des annuaires almanachs ecclésiastiques du diocèse, qui traite des descendances de Charlemagne et de Clovis. Il s'appelle Don Jean-Claude Vincent. L'Académie, malgré manifestement la première place obtenue, l'Académie ne lui décernera pas de prix, qui sera reporté à l'année 1775. L'année suivante, c'est-à-dire en 1774, en l'occurrence, un de ses confrères rémois, Don de la Porte, tentera sans plus de succès en envoyant sa dissertation sur l'agriculture chez les Romains. Une fois de plus, le prix faute de lauréat sera remis à l'année 1776. Dernier mauriste à avoir participé à l'un de ces prix, connaissant une certaine désaffection dans les dernières années du siècle, Don Zacharie Merle en 1788. Don Merle n'était pas un inconnu de l'Académie, puisqu'il avait aussi été correspondant de Moreau et de Bréquigny et un des historiographes bénédictins de Bourgogne. Ainsi, entre Mabillon et Montfaucon, et ces religieux de la seconde moitié du XVIIIe siècle, se dessine toute une évolution dans les rapports entre les mauristes et le monde académique. Dans les années 1770, la sociabilité académique est suffisamment développée et implantée en province pour que des rencontres soient possibles entre ces moines souvent actifs et ces relais et intermédiaires dans la production et la diffusion des connaissances. C'est aussi le signe qu'une véritable proximité entre l'Académie des inscriptions et certains de ses religieux se dessine dans les années 1760. Alors, mesurer cette évolution passe aussi par le repérage de l'utilisation des œuvres mauristes par les académiciens. Pour les académiciens, l'intérêt de l'œuvre mauriste est d'abord méthodologique, lorsqu'il s'agit par exemple de renvoyer au De Re Diplomatica ou à la paléographie grecque. En 1741, l'abbé Durenel propose des réflexions générales sur l'utilité des belles-lettres, dans lesquelles il rappelle les grandes lignes des travaux des deux siècles précédents. Le rétablissement de la langue latine dans son ancienne pureté, la naissance de la critique, fille, dit-il, de la grammaire, et enfin l'histoire, dont les composants sont discutés par la critique et précisés par la géographie, la chronologie et l'examen des monuments pour éclaircir les faits. Apparaissent alors les premiers savants, parmi lesquels le célèbre Père Mabillon, dit-il, créateur de cet art admirable qui apprend à juger sûrement de l'âge d'un manuscrit et de l'autorité d'une charte. Plus généralement, et cela ne surprend guère, c'est en tant qu'éditeur de textes historiques ou hagiographiques, donc en tant que producteur de sources, mais aussi de synthèses, que les mauristes sont utilisés et éventuellement discutés. C'est le cas à de très nombreuses reprises du Spicilegium de Don Luc d'Achery, des Acta Sanctorum, des Annalita Vetera de Mabillon, mais aussi des annales de l'édition des œuvres de Grégoire de Tours, pardon, des deux grandes collections de Martène, de l'histoire littéraire, du recueil des historiens des Gaules et enfin du Gallia Christiana. D'autres ouvrages apportent des éléments de comparaison, en particulier dans le cas de la connaissance des monuments, inscriptions, médailles et autres manuscrits. C'est le cas de l'Antiquité expliquée, des monuments de la monarchie française et de la Bibliotheca Bibliothecarum. Ce ne sont donc pas les académiciens qui utilisent les éditions patristiques des mauristes. Pour eux, l'œuvre des mauristes concerne d'abord l'établissement des faits et des sources, comme l'affirme d'ailleurs Lacurne de Saint-Palais en 1730 au sujet du Spicilegium de Don Luc d'Achery. L'utilisation comme source des Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti à des fins autres que l'histoire purement monastique confirme aussi la modernité du discours de Mabillon, lorsqu'il affirmait que l'histoire, même bénédictine, se devait être une contribution à la recherche de la vérité historique en général, celle du royaume en particulier. C'est d'ailleurs en ce sens que Fonsemagne, en 1724, utilise les Acta Sanctorum dans un mémoire pour établir que le royaume de France a été successif héréditaire dans la première race. Quant aux critiques, elles sont rares, au moins avant 1730. Ainsi, Lacurne de Saint-Palais, dans des réflexions sur la vie et les œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, critique Don Félibien, qui dans son histoire de l'abbaye de Saint-Denis n'a pas su lire ce que son devancier Duchesne écrivait au sujet de Guillaume le Breton. Cet académicien connaît aussi fort bien les travaux de Mabillon et pas seulement les grandes collections de textes édités. À partir des années 1740, les critiques se font un peu plus nombreuses, sous la plume de certains académiciens en particulier, l'abbé Leboeuf, l'abbé Bellet et Fonsemagne. Le chanoine Leboeuf, tout en travaillant régulièrement dans la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés et ayant fréquenté celle de Saint-Benoît-sur-Loire et de Saint-Corneille-de-Compiègne en particulier, n'hésite pas à remettre en cause une datation de Mabillon ou la reprise d'erreurs de copiste par Don Martène. Par ses travaux, d'ailleurs, il est un peu considéré à l'Académie même comme le successeur des mauristes. Évoquant par exemple l'identité de la reine Pédoque, sur laquelle Mabillon avait travaillé, l'abbé Leboeuf donne à ses confrères un véritable cours de méthode, montrant ainsi les progrès de la critique en matière d'analyse des documents iconographiques. Si Mabillon, dit-il, pensait que l'attribution de ce défaut corporel à Sainte-Clotilde était un emblème employé par les sculpteurs pour marquer la présence de cette princesse, Montfaucon poursuit Leboeuf, dans les monuments de la monarchie française, a senti l'insuffisance de la conjecture de son confrère mais n'est pas allé plus loin. Le bœuf se pose alors en héritier et en continuateur. De combien de critiques, dit-il, les statues du portail de Saint-Germain-des-Prés, celles du portail de l'église de Paris, n'ont-elles pas exercé vainement la sagacité? Dom Mabillon, Dom Ruinard, Dom Bernard de Montfaucon, l'abbé des Tuileries, Dom Bouillard, aucun d'eux ne s'accorde sur les autres et tous ont fait des recherches infructueuses qu'ils se seraient épargnées s'ils avaient appliqué à ce sujet ce qu'ils savaient tous si bien de l'usage constant auquel servaient autrefois les portiques et les vestibules de nos églises. Ils auraient vu que ces figures qu'ils prenaient pour des statues n'étaient, dans l'idée des sculpteurs, que des symboles. Et cette vue générale les aurait conduits à des explications particulières, plus naturelles et plus vraies, de ces monuments grossiers mais nécessaires à l'histoire des arts et de l'esprit humain parmi nous. Le Bœuf se fait aussi lecteur très attentif des volumes successifs du recueil des historiens de France, publié par Dom Bouquet. Ainsi, le 20 décembre 1745, est exposée l'aide apportée à Dom Bouquet dans l'identification d'un nom de lieu dont les habitants sont appelés Coupédenses dans les annales de Saint-Bertin. L'embarras où se trouvait Dom Bouquet détermina M. l'abbé Leboeuf à faire des recherches sur ce point de géographie qu'il alla même examiner sur les lieux en 1745. Au reste, Dom Bouquet a jugé le sentiment de M. Leboeuf si bien établi qu'il n'a pas fait difficulté de l'embrasser. Il l'adopte dans la préface en parlant de l'auteur avec les éloges que doivent à la sagacité de ses recherches tous les amateurs des antiquités françaises. Le même Leboeuf n'hésite pas à vérifier sur les lieux par de brefs mais nombreux voyages certaines affirmations des mauristes et de Mabillon en particulier, consacrant parfois des pages entières à remettre en cause telle ou telle affirmation. Quant à l'abbé Bellay, vers 1744 en particulier, évoquant la cité romaine de Giulio Bona dans le pays de Caux, il dénonce ce qu'il pense être des erreurs de Dom Toussaint Duplessis dans sa description de la Haute Normandie. Pour lui, le mauriste n'est pas assez précis dans sa méthode, manque de rigueur, fait des erreurs d'interprétation. Le mauriste n'a pas pris le temps d'étudier, d'analyser toutes les variantes possibles pour un même nom de lieu latin. Prenons le relais l'année suivante. L'abbé Fénel revient sur les imprécisions de Dom Duplessis. Ce Dom Duplessis est loin de faire l'unanimité. C'est sans doute le seul mauriste qui soit autant critiqué par les académiciens, comme le montre enfin une réflexion du baron de Zurlauben, par ailleurs très admirateur de Mabillon, en mai 1753 à propos de la vie d'Enguerrand de Sète de Coucy. On avait lieu d'espérer qu'elle serait corrigée dans l'ouvrage de Dom Toussaint Duplessis, bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, qui a donné une histoire de la ville et des seigneurs de Coucy avec des notes, des dissertations, des pièces justificatives, mais les contradictions, les omissions, les anachronismes rendent ce dernier ouvrage très imparfait. Lorsqu'il s'agit de critiquer Mabillon, ce savant antiquaire, comme l'écrit l'abbé Leboeuf en 1746, les érudits le font avec beaucoup plus de prudence et de respect. Même lorsque Mabillon se trompe, il reste un maître. C'est le cas de Fonsemagne, dans des observations critiques sur les actes des évêques du Mans, publiées en partie par le bénédictin dans ses Analecta. Il est toujours utile d'apprendre, dit Fonsemagne, que les grands hommes ont pu se tromper, leurs fautes nous rendent plus attentifs. La question posée tournait autour de la datation de diplômes donnée par Gauziolan, évêque du Mans, au 8e siècle, Mabillon considérant qu'il y avait une altération de date, ce qui ne convainc pas Fonsemagne. Et très finement, en note, l'érudit signale l'évolution même de la position de Mabillon, non sans certaine satisfaction. Lorsque j'ai rédigé ces observations, j'ignorais que le père Mabillon eût changé d'opinion sur les chartes que j'ai discutées, et qu'en se réformant, il eût prévenu ma critique. C'est ce que j'ai remarqué depuis en lisant le supplément de la diplomatique, où il paraît même indiquer la solution que je propose. Je n'ai pas cru pour cela supprimer mes observations. L'avantage de se rencontrer avec le père Mabillon dans une découverte de cette espèce vaut bien celui d'avoir été seul à le faire. Les académiciens n'utilisent pas seulement l'œuvre imprimée des mauristes. Ils ont pour certains d'entre eux, vous le savez, accès aux collections de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, aux manuscrits conservés, y compris dans des fonds qui y sont déposés, comme la bibliothèque de Séguier. La cure ne rend ainsi hommage à la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, ce dépôt digne de conserver de tels monuments, tant par le bon usage qu'en peuvent faire les savants religieux de ce monastère, que par la facilité avec laquelle on y communique aux gens de lettres les richesses qu'il renferme. Du côté mauriste, la volonté de faire partager aux savants certains monuments trouve en Montfaucon une illustration parfaite lorsqu'il expose en 1734 puis en 1739 dans deux interventions à l'Académie des documents déposés à Saint-Germain-des-Prés par tel ou tel érudit ou personnalité. Il ne manque pas de les citer. Les rapprochements sont donc multiples. Plus encore, dans quelques très rares cas, l'œuvre des mauristes est reprise, corrigée, rééditée par tel ou tel académicien selon des normes plus rationnelles et modernes. Effectivement, dans un cas a priori, c'est le cas de Louis de Labarre, rééditeur du Spicilegium de Dondacherie en 1723. Ce cas du Spicilège est particulièrement intéressant, car ce serait peut-être, à ma connaissance, peut-être une des premières étapes d'une appropriation d'une œuvre mauriste par l'Académie. Le plan est revu dans le but de séparer les traités dogmatiques et théologiques de l'histoire ecclésiastique d'une part, de l'histoire profane de l'autre. L'Académie et la congrégation de Saint-Maur apparaissent donc comme deux corps savants, ce qui est une des raisons, comme l'a écrit Daniel Roche, de la limitation du nombre de mauristes dans les académies, que ce soit l'Académie royale ou les académies de province. En voici par exemple un cas très révélateur. En 1742, le chanoine Leboeuf propose une notice sur un des manuscrits des chroniques de Saint-Denis. Il se retrouve face à un dilemme. Signaler sa découverte à l'éditeur du recueil des historiens de France, donc le mauriste dont Martin Bouquet, ou alors s'adresser d'abord à l'Académie. Le récit qu'en fait le secrétaire perpétuel est on ne peut plus clair. Pendant que le savant religieux bénédictin, qui a déjà publié 7 volumes du recueil des historiens de France, se préparait à faire imprimer les chroniques de Saint-Denis, M. Leboeuf en a découvert une copie plus ancienne qu'aucune de celles que l'on a connues jusqu'à présent. Sa première attention a été d'en informer Dom Martin Bouquet et de l'avertir qu'il pourrait tirer du nouveau manuscrit une ample moisson de variantes, propre à fixer le vrai langage de celui qui a traduit les chroniques en français. Mais l'Académie a des droits sur toutes les découvertes que font ses membres, et c'eût été manquer à un devoir que de ne lui pas rendre compte de celle-ci. Monsieur Leboeuf y a satisfait en nous donnant la notice du manuscrit dont il s'agit, qu'il a trouvé dans la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Si les individus se croisent, se lisent, on sait combien rares, on l'a dit, les mauristes se retrouvent dans le monde académique. Ce qu'il est peut-être un peu moins, c'est l'image qui entoure cette activité savante bénédictine dans les écrits des académiciens, comme on a pu le voir à l'instant. Ce n'est pas seulement Mabillon qui est considéré comme un docte et un humble savant. Bien souvent, lorsqu'il est fait allusion aux travaux de Montfaucon, de Dom Bouquet ou encore de Dom Martin, c'est ce même caractère de moine savant qui rejaillit parfois, qui rejaillit régulièrement dans les éloges de certains académiciens. Peu à peu, à partir des années 1750, on semble assister à un rapprochement entre les deux corps savants, comme si certains académiciens, et non des moindres, le secrétaire perpétuel par exemple, considéraient que les académiciens et quelques-uns des mauristes érudits appartenaient à une même communauté, au-delà de la séparation des corps et de l'absence de mauristes à l'Académie. L'éloge de Denis-François Secousse en 1754 met ainsi en parallèle la mort, dans l'espace de quelques mois, de l'académicien et de deux mauristes dont les œuvres sont au cœur de la vie académique, Dom Bouquet, pour son recueil des historiens de France, et Dom Toustin, l'un des auteurs de la Nouvelle Diplomatique. Ces grands travaux collectifs, intéressant non plus seulement l'histoire ecclésiastique mais l'histoire de France, entrent dans l'univers académique, tandis que la participation des mauristes aux côtés d'académiciens, au cabinet des chartes, à partir des années 1760, va renforcer ce rapprochement. Et les années précédant la Révolution vont concrétiser finalement ce rapprochement avec le nouveau règlement en 1785-86 qui permet à l'Académie des inscriptions de recevoir en son sein Dom Poirier, Dom Clément, puis Dom Brial. La définition de la place de l'historien, y compris bénédictin, dans l'écriture de l'histoire du royaume, initiée par Mabillon autour des Acta Sanctorum et des débats qui s'en suivent, trouve donc un aboutissement dans ces années 1755-1760. En intégrant d'abord intellectuellement, puis physiquement certains savants mauristes, l'Académie illustrait la complémentarité des talents nécessaires à l'historien. Tel que l'exposait, peut-être, le marquis d'Argenson, lui-même académicien, dans une série de réflexions, le 14 mars 1755. Les quatre qualités de l'historien, dit l'académicien, sont une critique exacte et savante, fondée sur des recherches laborieuses pour la collection des faits, une grande profondeur en morale et en politique, une imagination sage et fleurie qui peigne les actions, qui déduise les causes et qui présente les réflexions avec clarté et simplicité, enfin, une constance dans le travail, un style égal et soutenu et une exactitude infatigable qui ne montre jamais l'impatience d'avancer ni la lassitude pendant le cours d'une longue carrière. Toutes ces qualités, l'académicien reconnaissait qu'elles étaient difficilement envisageables chez un seul homme et que l'écriture de l'histoire pouvait être conçue comme le fruit du travail d'une société d'amis, dit-il, quelque peu utopique. Concevons, dit-il, que l'histoire ne peut être l'ouvrage d'un seul homme, mais qu'elle doit être écrite par une société d'amis qui ne diminue point de bonne intelligence par l'opposition de leurs talents. L'un d'eux serait un bon critique, aussi assidu qu'était Monsieur le nain de Tillemont, vérifiant soigneusement les faits et les dates, et les rédigeant avec la simplicité d'un analyste. Un autre, répandu dans le monde et né pour la poésie, traduirait cette simplicité en élégance, écrirait le tout en style soutenu, naïf sur les faits, orné dans quelques descriptions, profond dans la connaissance des hommes, exposant les caractères et les tableaux, clair en tout, et n'avançant ses idées que dans l'ordre naturel de leur précision. Il fallut attendre une trentaine d'années pour assister à l'arrivée de nouveaux mauristes à l'Académie. Deux mauristes y font alors leur entrée en 1785, mais déjà au cœur du dispositif intellectuel parisien, Dom Clément et surtout Dom Poirier. Le nouveau règlement renforce l'intérêt pour l'érudition et pour la critique, portant à la fois sur les faits et les sources. En 1808, dans son rapport historique sur les progrès de l'histoire depuis 1789, Bon Joseph Dacier justifiera a posteriori ce rapprochement entre les survivants des deux institutions défuntes, les ordres monastiques et les académies, donnant naissance à l'Institut national que l'ex-bénédictin Michel-Jean-Joseph Brial nomme le Sénat littéraire, dans la préface du tome 14 du recueil des historiens des Gaules et de la France, paru en 1806. L'étude des anciennes chartes et des manuscrits de différents siècles ensevelis dans la poussière des bibliothèques et des chartriers semblait être le partage exclusif de quelques ordres religieux. Et si quelques savants s'en occupaient hors des cloîtres, leur émulation n'était soutenue que par l'Académie des inscriptions et des belles-lettres qui savaient apprécier leurs travaux. Il était donc impossible que cette étude ne fût pas presque entièrement abandonnée après la suppression des ordres monastiques et des académies. Pour conclure, l'histoire des liens entre les mauristes et l'Académie est au cœur de l'œuvre de Mabillon et des débats internes suscités par les Acta Sanctorum Ordini Sancti Benedicti. Mabillon avait répondu que l'histoire faite par les moines se devait, par une stricte honnêteté intellectuelle, participer à l'écriture de l'histoire. Dès les années 1670, les savants de la République des Lettres l'avaient compris comme cela, en le félicitant. Ce que Claude Gros de Beauce, secrétaire perpétuel, disait dans son éloge de Mabillon confirmait cette profonde transformation historiographique. On ne considérera pas à l'avenir les vies des saints, même des saints solitaires, comme des livres qui ne servent tout au plus qu'à exciter la piété et à ranimer la foi des fidèles. À cette utilité particulière dont Mabillon a su joindre de nouveaux avantages. La chronologie rétablie, l'histoire restituée, les différents usages des temps découverts et expliqués. La réussite académique du monde mauriste, c'est d'abord la rencontre entre des projets collectifs intéressants à travers l'histoire des textes, l'histoire littéraire et l'histoire de France, et des réseaux savants, faits d'individus issus d'institutions aussi diverses que les académies, les bibliothèques et certains corps religieux. Dans le cadre de l'histoire de cette académie, la rupture révolutionnaire permet à certains de ces hommes, les Poirier, Clément et Brial, et à leur projet, le recueil des historiens de France ou l'histoire littéraire de la France, une fois leur institution supprimée, d'avoir toute leur place dans le corps académique renaissant. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication d'Odon Hurel du CNRS et du Laboratoire d'études sur les monothéismes, prononcée en grande salle des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 7 décembre 2007. Son intervention s'intitulait « Mabillon, l'hémoriste et l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres ».